C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
Merci d'être là avec nous, amateurs de sport, ce vendredi soir. On vous souhaite un excellent week-end et on l'entreprend en compagnie de Martin McGuire, qui est déjà rendu à Tampa Bay avec les Canadiens de Montréal. Bien le bonsoir, Martin.
Bonsoir, Mario.
Bon, ben une histoire qui fait un peu la manchette aujourd'hui, à laquelle on ne s'attendait pas. Puis c'est pas lié à l'humeur du coach compte tenu du résultat d'hier, mais plutôt au fait qu'il y a peut-être un gars, si je paraphrase Martin Saint-Louis, une expression qu'il utilise souvent, qui a pas pris soin de l'équipe en ne se présentant pas à un meeting.
Oui, malheureusement, Mario, il y avait deux absents à l'entraînement du club aujourd'hui qui a eu lieu. Sur l'heure du midi au centre d'entraînement du Lightning de Tampa Bay, un peu à l'extérieur du centre-ville, parce que le Amalie Arena est occupé en préparation pour la soirée d'intronisation au Temple de la Renommée, auquel Martin et Vincent Lecavalier vont être conviés avec Phil Esposito. Mais à l'entraînement aujourd'hui, il y avait Caden Gooley qui, malheureusement, s'est fait mal à un genou lors du dernier match. On l'avait retiré pour des traitements. L'autre joueur, c'était Jonathan Drouin. Puis je t'explique le contexte rapidement, Mario. Alors qu'on s'est aperçu que Drouin n'était pas là, j'interpellais Chantal Maccabé, la vice-présidente aux communications, en lui demandant si on avait des détails sur Jonathan Drouin. Et à ce moment-là, Chantal nous a mentionné que Martin Saint-Louis ferait le point lui-même sur la situation de Jonathan Drouin. Alors là, on sait que c'était pas une histoire de traitement, de blessure. Voici comment Martin Saint-Louis nous a expliqué l'absence de Jonathan Drouin.
Moi, j'ai des non négociables. Joe, il a manqué un meeting. Il y a des conséquences.
C'est quoi les conséquences? Qui a manqué, c'était quand?
Un matin.
C'est quoi la conséquence? Pratique pas.
Comment c'est que ça? Okay,
donc, on ne sait pas si je vais manquer.
Non.
Il est toujours autour de l'équipe.
Oui.
Tu fais une amende en plus.
Que le juge, la question répondue, c'est fini. Là.
C'est pas ça d'autre chose. C'est pas une situation, par contre. T'sais. L'équipe, hier, a perdu. Ça a été difficile. C'est sûr que c'est une situation qui est frustrante pour tout le monde de perdre des matchs comme ça. Est-ce que ça fait en sorte que tu veux que tout le monde soit la tête à la bonne place comme tout le monde?
Comme moi, c'est une culture. La culture est importante, elle est plus importante que n'importe qui.
Donc, Martin avait pas envie là d'y aller d'une longue tirade. Sa décision est prise. Mais ce qu'on comprend, puis Martin, tu vas nous éclairer là-dessus, c'est que dans le fond, je sais pas c'est à quelle heure ce meeting-là qui précède la pratique, mais on comprend que Jonathan s'est jamais rendu à l'aréna, si je me fais aux collègues qui ont tweeté à ce sujet-là.
Ben, écoute, s'il s'est rendu à l'aréna, il y a personne qui l'a vu. C'est-à-dire qu'il y a personne d'entre nous qui l'avons vu, Mario. Est-ce qu'à un moment donné, Martin, est-ce que Jonathan Drouin était à l'extérieur de la patinoire, il est allé faire de l'entraînement hors glace? J'ai pas d'indication à cet effet-là, Mario.
D'accord.
Aucune indication, parce que de toute façon, c'était au centre d'entraînement du Lightning. Le Canadien peut pas utiliser la salle d'entraînement du Lightning de Tampa Bay, à moins que je fasse erreur, là. Mais on n'a pas vu Jonathan Drouin. Est-ce qu'il est resté à l'hôtel? Ça nous a pas été confirmé. Il y a une chose qui est sûre, Mario, c'est que demain, si on devait utiliser, par exemple, Wideman à la place de Goulet, si Goulet n'est pas en mesure de jouer, on n'a pas d'attaquant en surplus pour remplacer un Jonathan Drouin. Alors, peut-être que l'entraîneur du Canadien n'aura pas le choix d'utiliser Jonathan Drouin. Peut-être que c'est son idée de l'utiliser demain. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, ça va être intéressant de voir comment ça va se développer, parce que Kent Hughes, le directeur général, est sur le voyage. Puis quand il arrive des situations comme ça, des fois, ça devient des dossiers de directeur général.
Possiblement, et on en reparlera tout à l'heure, parce que Martin Saint-Louis, qui sera honoré en même temps que Vincent Lecavalier demain à Tampa Bay, je pense qu'il aimerait ça que son club se fasse moins malmener qu'hier, que t'as conclu le reportage hier en disant que le Canadien était humilié. Et d'ailleurs, t'étais curieux de savoir comment les coachs ont ressaisi ça, parce que, en tout cas, publiquement, hier, Martin n'a pas donné un show de boucan après la rencontre.
Là. Non, puis je pense qu'il voulait pas aller là. Ça n'a jamais été son intention de faire ça. Il en met beaucoup quand c'est positif, Mario. Ça, il gêne pas pour en mettre. Mais quand c'est négatif, il se contente de dire sèchement et de façon très précise avec des phrases courtes qu'est-ce qu'il en est. Exactement comme ce fut le cas pour la situation de Drouin, comme vous avez entendu. C'est un défi pour les coachs, Mario. C'est une équipe qui est remplie de joueurs qui ne seraient peut-être pas avec l'équipe, s'il n'y avait pas 12 blessés et tout ça, on connaît la situation du Canadien. Alors, les coachs doivent travailler avec un certain doigté. Je pense pas que de serrer les rondelles sur le côté de la glace puis de faire du stop and go, ça aurait été une bonne solution aujourd'hui. Alors, les coachs devaient trouver la meilleure méthode pour replacer un club compétitif demain contre le Lightning. On va écouter Martin Saint-Louis.
Oui, mais tu sais, il faut que tu adresses ton équipe. Faut que tu aies un plan, faut que tu aies un message aussi. Tu sais, tu peux pas juste passer à d'autres choses. Tu peux pas juste tourner la page facile, des matchs comme ça. Vraiment, j'ai jamais fait partie de ça. Le nombre de buts, de chances et tout. Il y a eu des mauvais bons aussi, mais pareil, tu sais, c'est... Quand c'est 7, là, que ça soit 6 mauvais bons, c'est 7 pareil. Là, puis c'était pas 6 mauvais bons. Mais les choses qui nous gardaient vraiment compétitifs pour un bon stretch, jeu défensif, tranquillement, mais à partir de la game de Colorado, genre, c'est quand on a commencé à s'éloigner de ça un petit peu. Puis hier, c'était vraiment un autre signe qui montre qu'on continue à s'éloigner. Fait que c'est de ramener ça à nos standards. Puis, notre job comme entraîneur, là, une journée comme aujourd'hui, c'est de ramener ces standards-là, puis de leur montrer des exemples et tout. Puis ils ont travaillé sur ça sur la glace. Puis je pense que dans la situation où on est, notre jeu défensif, collectivement, faut qu'il soit à nos standards, parce qu'on va dans la misère à compétitionner si ça ne l'est pas.
Ramener les standards, Martin.
Oui.
Ramener Samuel Montembeault devant le filet hier et
oui.
Demain soir. Il l'a annoncé dès ce matin.
Oui.
C'est rare qu'il ait bien d'avance là-dessus pour nous le dire.
Ben écoute, je te dirais que depuis 3 semaines, un mois...
Un peu
là,
plus, oui.
Il fait moins de cachettes avec ça. Là. Alors, ben écoute, c'est très court, mais on va écouter pourquoi Martin Saint-Louis a choisi Montembeault pour demain.
Ben, on a choisi Monté. Je trouve que c'est pas une situation facile pour lui, pour tourner dans le game. Je trouve qu'il nous a donné... Fait du bon travail quand il est venu.
Alors, Mario, écoute, je pense que le travail est là. Samuel est allé sur la glace avant tout le groupe avec Jake Allen, avec l'entraîneur des gardiens de but. Ces gars-là ont fait leurs devoirs, Mario, et il y en a un qui a fait ses devoirs aujourd'hui. Puis la raison pour laquelle on a tendance à penser des fois que Martin Saint-Louis va le protéger, là, qui protège l'intégrité de Jake Allen, c'est entre autres pour des événements comme aujourd'hui. Laisse-moi te raconter ça brièvement.
Vas-y.
Nous, les médias, on avait fait la demande de parler à Martin Saint-Louis, de parler à Nick Suzuki et de parler aux deux gardiens de but. Dans le cas de Nick Suzuki, il n'était pas disponible aujourd'hui. Martin Saint-Louis nous a parlé. Et quand le vestiaire a ouvert, la vice-présidente de l'équipe, Chantal Maccabée, est allée près des deux gardiens de but pour les tenir au courant qu'on s'en venait. Et Jake Allen a dit à Chantal Maccabée, tu vas demander aux journalistes que ce soit moi et uniquement moi qui parle. J'ai des responsabilités par rapport au match d'hier. Je vais les assumer et Samuel va aller se préparer pour le match de demain. Alors, Allen a dit, j'ai pas grand-chose à changer. C'est d'être la meilleure version de moi-même. Il dit, il n'est pas question de faire du vidéo après un match comme ça. Ils ont le tir aux poubelles, puis on recommence à travailler. On se relève les manches, puis quand on va faire appel à moi, je vais devoir être prêt, et je vais être prêt. Et Allen a dit, c'est un match de fou. Puis à un moment donné, on lui a dit, ben écoute, t'es rentré à froid dans le match. Il dit, non, non, non. Il dit, j'ai des responsabilités envers cette équipe-là. J'ai un travail à faire, puis rentrer à froid ou pas, là, c'est pas le genre de performance que je suis habitué de donner, puis c'est pas le genre de choses qu'il faut que je fasse pour aider l'équipe. Puis j'ai su que ses parents assistaient au match hier Floride. Ses parents étaient là, puis ils ont assisté au match. Puis j'ai dit écoute, je veux pas aller dans le trop personnel, mais j'ai dit après le match, d'avoir des gens qui t'aiment de ton entourage, est-ce que tu as pu ventiler avec eux? Puis il va nous expliquer dans l'extrait qui a pas parlé à ses parents après le match. On va l'écouter.
Yeah, no, I didn't talk to him.
No.
No. No, it's not, it doesn't make any difference. My parents bet hundreds and hundreds of my games.
Yeah.
A lot of bad ones, a lot of good ones, you know, but obviously it's tougher for them than it is for me. I'm used to it. So definitely as a parent, you know, it doesn't matter who you are or what you do. It's unfortunate, but it's the nature of the beast, and you know, they're used to it. They've been a goalie parent since I was 5, so.
Alors, il a dit, je leur ai pas parlé après le match. Mes parents sont toujours derrière moi, que j'ai eu de bons, de mauvais matchs. Les parents, c'est ça. Je sais qu'ils sont derrière moi. Puis il dit, écoutez, c'est comme ça. Il dit, c'est la nature de mon métier, the nature of the beast. C'est comme ça que je compose avec les situations. Puis mes parents comprennent ces choses-là, mais c'est spécial, Mario, tu sais, quand même, quand on pense à ça. Tu sais, Jake Allen, c'est pas un enfant de 13 ans qui joue Pee-wee, mais tu sais, quand tes parents sont là, puis que tu te fais découper comme ça en morceaux, là, puis tu sais que c'est sur les réseaux de télé nationaux, c'est à la radio, c'est partout, c'est le gardien du Canadien de Montréal, et c'est sûr que ça peut être dur parfois, ça peut être cruel.
Il y a aucun doute, puis c'est un élément intéressant de ce que tu nous présentes aujourd'hui, parce que ça nous procure de la perspective par rapport à ce que lui vit, puis il le communique très bien d'ailleurs. Alors, une petite étoile pour, en tout cas, la façon dont il a décidé de faire face au microphone aujourd'hui, au lendemain.
Il a pris ça comme un homme, Mario.
Oui, monsieur.
Il a pris ça comme un homme.
Ça, c'est bon, tu sais, les standards d'une équipe, ça s'établit de bien des façons en étant, en étant là pour les meetings, puis en faisant face également à la pression quand elle se présente, juste au lendemain des belles performances, au lendemain du fait que tu as eu une première étoile. Et terminons sur une note intéressante, alors que Martin Saint-Louis vit une soirée spéciale à Tampa ce soir avec son vieux complice Vincent Lecavalier.
Oui, puis avec Phil Esposito aussi, comme on le disait en début d'intervention, le Lightning a décidé d'avoir son propre temple de la renommée. Martin nous a dit aujourd'hui que c'était une bonne idée parce qu'il dit des fois, il y a des gars qui ont été très importants pour une franchise, mais qui recevront pas le crédit de la Ligue nationale, de toute l'industrie au complet. Alors, les trois premiers, c'est ceux que je viens de nommer. Martin est honoré. Il nous a dit à un moment donné, il dit, c'est sûr que là, j'ai la tête pleine de choses avec mon club puis la contre-performance, là, mais il dit, il a été très, très chaleureux par rapport à l'idée et émotif par rapport à l'idée d'être là. Il a remercié Rick Dudley. C'est Rick Dudley qui l'a amené dans l'organisation du Lightning de Tampa Bay. Il y a eu Tortorella, mais ça a commencé par le directeur général qui lui a donné une chance. Il a dit qu'il rencontrait encore souvent Rick Dudley et qu'il le remercie à plusieurs reprises de lui avoir donné cette chance-là. Puis à un moment donné, dans la conversation, il m'a dit, j'ai été chanceux d'avoir Vincent. Il dit, on s'est aidé mutuellement dans notre développement, puis dans nos succès, puis nos insuccès chez le Lightning. Puis écoute bien, je lui ai demandé, veux-tu nous donner un exemple où Martin ou Vincent a été important pour toi? Écoute bien ça.
Mais Vincent, là, tu sais, moi, j'ai grandi, mon centre, c'était Éric Perrin. En ce moment, au Québec, ils savent tout. Vincent, c'était la première fois que, depuis que j'étais plus avec mon centre, Éric Perrin, que c'était pareil. C'était beaucoup de passe dans l'espace, aveuglette un petit peu, on sachait où on était sur la glace. Puis ça, c'est un, mais deux pour Vincent. Quand je jouais avec Vincent, là, mais je me faisais pas. Je me faisais bardasser. Mm-hmm. Bien des fois, là, Vincent arrêtait de jouer au hockey, puis il se pognait avec un gars parce que le gars m'avait frappé cochon quelque chose. Puis je revenais au banc souvent, puis c'était Martin, il l'avait pas vu, il m'en disait, Martin, c'était-tu vicieux? Pis si je disais oui, là, mais le prochain chef, il jouait pas au hockey. Puis c'est pas comme si Vincent, c'est un batailleur, mais pour un gars qui a scoré 50 buts, puis il se pognait avec n'importe qui, là, s'il pensait que c'était vicieux. Fait que pour moi, ça me mettait plus gros sur la glace, ça me donnait plus d'espace.
Ça nous donne une meilleure idée, Mario, de comment Martin Saint-Louis veut bâtir le club à Montréal. Puis quand il parle de standard, là, ça nous donne une bonne idée de ce qu'il dit quand il parle de standard, puis à quoi il pense, puis de quel endroit il vient pour établir des standards.
Exactement. Martin, donc, bonne soirée à Tampa Bay ce soir avec Danny, et on vous retrouve demain à compter de 18h, comme tous les samedis, une heure d'avant-match, en espérant que le Canadien, va tenir le fort de meilleure façon qu'ils ne l'ont fait hier contre les Panthères.
Oui, puis il y a toujours de l'émotion, Mario, entre le Lightning et le Canadien, puis je pense que ça va être un ingrédient qui va être important dans la sauce de Martin Saint-Louis, mais surtout celle de ses joueurs, parce que ce sont les joueurs qui défendent les couleurs du Canadien sur la glace.
Aucun doute. Bonne fin de semaine, bon match demain, Martin.
Bon week-end, Mario.
Merci beaucoup.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford, construit avec fierté.
La Poche Bleue. Salut Max, comment ça va?
Ça va super bien, toi, Mario?
Ça va très, très bien. Je te sens loin un petit peu, mais je sens que tu vas te rapprocher du feu. Là. On est sur le bord du feu.
C'est mieux comme ça?
Ouais, je sens que tu t'approches. Là. T'avais l'air d'un gars qui était sur le bord d'arriver en retard au meeting, tu sais.
C'était mes écouteurs, je pense.
Ah,
ça fonctionne plus.
Ah, c'était. Des fois, il manque de jus. Fait que. Es-tu déjà arrivé en retard à un meeting, toi, Max? Un meeting d'équipe? Es-tu déjà arrivé?
C'est pas mon style, Mario, d'arriver en retard, mais c'est arrivé une fois à Saint-Louis, et puis c'était à cause du changement d'heure, je m'étais mélangé dans mes affaires, fait que c'était à l'époque où ce que ton téléphone, il changeait pas tout seul l'heure si tu l'ajustais
oui,
pas, et puis
oui.
J'avais un vieux téléphone plutôt, là, mais j'étais arrivé en retard, puis Kaniska qui comprenait, là, parce que je pense que c'est important. Là, tu sais, quand on parle de se construire une feuille de route puis une identité dans la Ligue nationale, c'est pas juste la patinoire, c'est en dehors. Puis moi, mon style, c'est toujours d'arriver 3-4 heures avant game, 3 heures avant pratique. Puis je suis toujours le premier, là, peu importe où on va, aéroport, vestiaire, un peu. Fait qu'il a compris que c'était vraiment une erreur de chemin, puis il n'y avait pas vraiment de discussion à avoir là-dessus.
Et donc, ça n'a pas fait d'histoire.
Aucune.
Comment se sent le gars pour qui ça fait une histoire? Bon, c'est sûr qu'il dit « Maudit, j'aurais dû arriver en retard », mais là, tu te retrouves évidemment avec tes réflecteurs. C'est un choix d'équipe et d'organisation de rendre public. Et en sanctionnant, ça devient public nécessairement. Puis, il y a bien des histoires qui devaient être abriées justement pour pas que ça fasse un drame public, même si tu gères à l'interne.
Ouais, c'est sûr et certain. Puis il y en a toujours des histoires qui sont gérées à l'interne puis qui sortent pas. Mais je pense que dans chaque situation, c'est d'analyser comme je viens de mentionner le joueur puis ce qu'il a fait dans le passé. C'est important. Puis ça fonctionne un peu comme les suspensions, hein. Tu sais, c'est la troisième fois que tu donnes un coup à la tête à un joueur, tu vas être sanctionné pas mal plus sévèrement qu'un joueur qui c'est la première fois par accident. C'est la même chose. Tu sais, c'est ta feuille de route ce que tu fais. Là, en ce moment, ce qui est arrivé avec Drouin, pour moi, je pense, tu sais, faut pas non plus paniquer, là. Ça arrive une erreur, puis ça peut être aussi bien que son téléphone a manqué de batterie, là. T'sais, on sait pas l'histoire, mais c'est juste que ça tombe mal dans son cas. Et histoire de timing, ça fait des années que c'est des montagnes russes avec lui. C'est sa dernière, tu sais, il reste pas grand match, là, à lui pour se gagner un contrat avec le Canadien de Montréal. Est-ce que c'est la goutte qui a fait déborder le vase? Je pense pas que c'est assez pour tout chambarder, mais en même temps, c'est vraiment un mauvais timing.
Ben, ton ami, notre ami Antoine Roussel, qu'on entendra plus tard à l'émission, avait ceci à dire.
Pour eux, c'est ils veulent le faire savoir que pour eux, c'est la marche à suivre. Puis il y a personne qui est au-dessus des lois de Martin Saint-Louis. Puis c'est parfait. Ça vaut pour tout le monde. Si Nick Suzuki manque un meeting, que ça soit à n'importe quel moment de l'année, c'est là que tu vas voir aussi si le coach, il y a une ligne directrice ou pas.
Mais le supplice de la goutte, là, Maxime, ça te laisse penser que c'est peut-être déjà arrivé.
Alors, c'est sûr et certain que, ça je ne sais pas, là, mais si c'est arrivé pour la deuxième fois, mettons, c'est là que tu sévis. Si c'est la première fois dans une mauvaise séquence, comme là, tu sais, on s'entend, Mario, que c'est pas le temps. Là. Tu viens de donner 9 buts hier, t'en as donné 8 contre Avalanche. C'est beaucoup à Pittsburgh. C'est pas. Ça doit pas être les entraîneurs sont pas de bonne humeur là, en ce moment, on s'entend défensivement. Alors c'est peut-être pas le temps de tester ce matin, mais la réalité, c'est que c'est la période parfaite pour envoyer un message cette année. Je suis d'accord avec Antoine sur plusieurs points, à part un. Là. Si c'est Nick Suzuki qui manque un meeting comme ça l'an prochain, mettons, ou dans 2 ans, puis qu'on est à 2 points des séries à cette heure-ci d'année, je pense pas qu'on va le punir. On s'entend là-dessus.
Il y en a-tu qui ont une marge de manœuvre, qui vont utiliser big time parce qu'ils ont le gros bout du bâton, parce que ce sont des joueurs étoiles ou toutes sortes d'autres raisons?
100%, Mario, tu sais, faut pas se cacher de ça. Est-ce qu'il y a des entraîneurs comme un John Tortorella, c'est sûr qu'il va punir n'importe qui, peu importe que ce soit un joueur étoile ou pas. Est-ce que Martin Saint-Louis le ferait? Je suis sûr, ça aussi, que c'est un gars honnête. Mais comme je viens de mentionner, faut analyser les choses. Puis faut, tu sais, le but dans tout ça, c'est d'être honnête envers l'équipe. Puis si un gars manque un meeting, admettons, puis on s'entend que c'est pas plus grave que ça, là, il y a des niveaux dans tout. Mais si tu manques un meeting, par exemple, puis tu te bats pour une place en série, puis c'est le meilleur joueur d'équipe, ben ce que tu dois à l'équipe, c'est de le faire jouer. Parce que tu sais qu'il va te donner une meilleure chance de gagner. Tu peux dans ce cas-ci, peut-être donner une amende salée ou te reprendre plus tard ou peu importe. Là, tu payeras le souper pour toute l'équipe, mais il y a différents timings, différentes façons, différents individus. Moi, je pense qu'on peut pas gérer une situation comme celle-ci de la même façon pour tout le monde. tout dépendamment là, du classement du joueur puis du temps de la saison.
Bon, tout le monde accepte pas mal là, ce qui se passe cette année chez le Canadien. Puis je disais ça après le match hier, j'étais pas moi indigné, fâché. Ça aurait pu m'arriver à d'autres tantôt, mais cette année, on dirait que comme je constate que tout le monde accepte le fait que le Canadien avait pas d'ambition concrète, je me dis, bon, ben, je me rendrai pas malade pour ça, mais...
tu l'as accepté, finalement, la reconstruction?
Là, c'est écoute, c'est comme un moment tu choisis tes combats, Maxime, tu sais.
OK, j'aime ça.
Tu sais, je choisis mes combats, mais là, je suis en train de perdre mon fil avec tout ça, mais toi t'as-tu eu mal à ton CH hier, un match de même. Y avait-tu un morceau en toi qui était fâché?
Non, honnêtement, non. Je comprends la situation. Par contre, on s'entend qu'il faut se ressaisir un peu là, d'ici la fin de la saison, mais je sais c'est quoi le plan en ce moment, je sais ce qui va arriver. Oui, on veut que les gars se donnent, mais la réalité, Mario, année de reconstruction, il manque le trois quarts de l'équipe. On joue théoriquement avec une équipe de la Ligue américaine. La motivation des deux côtés n'est pas la même. T'as une équipe qui se bat pour une place en série, l'autre, peu importe ce que tu fais. C'est quand même bien qu'on aurait gagné 10-0 hier, ça change rien. Ce que j'ai aimé, par contre, quand je me suis levé puis j'étais allé chercher mon petit bol de chips, Mario, entre les périodes, l'important pour moi, c'était en deuxième période de voir une réaction de certains joueurs, de voir durant le match une réaction de certains joueurs, puis je l'ai vu, ça. J'ai vu les Harvey Pinard, les Pezzetta, les joueurs qui se battaient pour une place dans l'alignement, continuer de tout donner, puis donner leur 110%, même si c'était pas toujours élégant. J'ai vu Montembeau revenir dans le filet, puis faire les bonnes choses, montrer du caractère, montrer qu'il était capable de se ressaisir, puis je crois qu'il l'a fait, puis je pense que c'est ça qui fait qu'il va être dans le filet demain, si je me trompe pas.
Oui.
Donc j'ai vu ce que j'avais à voir côté caractère pour les joueurs qui se battent pour une place pour l'an prochain.
Mais tu sais, juste, j'avais même pas prévu de parler de ça bien vite sur le fait que Montembeau a le filet demain. Martin, le coach, et Martin McGuire va nous l'expliquer tout à l'heure. Tu sais, il explique ça par le fait que tu sais, dans le fond, il a bien fini hier. Tu sais, puis donc, donc un événement très récent peut provoquer une décision. Tu comprends pour l'affaire qui va suivre. Autrement dit, la dernière présence d'un gars sur la glace peut influencer le coach. Si je me fie à cette décision-là par rapport au fait que ce soit Sam demain, je sais pas.
Hey, Mario, peux-tu te conter une anecdote là-dessus?
Ben, tu peux toujours.
C'est un moment, on se battait pour une place en série à Hamilton. Ça fait longtemps. Là, on s'entend dans la Ligue américaine. Et puis, je prends une punition stupide. Je m'en vais dans le banc de punition. C'est 2-2, je pense, en fin de troisième période. On a besoin de ces points-là, c'est important. Puis là, à l'époque, c'était Don Lever, l'entraîneur, puis il m'envoie un vétéran. Je me rappelle plus c'était qui le vétéran, mais il me dit dans le bas de l'édition, Don, il fait dire que tu joues pas au prochain match. Parce qu'il était fâché pas à peu près. Et comme de fait, il reste à peu près 45 secondes à la game, je sors du bas de l'édition, puis je marque en échappé. Là, qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là? Il m'a juste ramené dans son bureau et m'expliquer que c'était pas acceptable la position que j'ai prise, mais que j'allais jouer le prochain match.
Il t'a pas envoyé un vétéran pour te dire finalement, Don a repassé à son affaire que tu vas jouer. Hey, c'est bon.
Non, c'est ça. Fait que oui, la performance d'hier, c'est ça qui est arrivé. Je pense qu'il a montré du caractère, il a montré qu'il était là pour l'équipe, même quand ça allait mal, il s'est ressaisi, puis il méritait d'être dans le filet. Puis il méritait depuis longtemps d'être dans le filet, Mario, parce que son évolution depuis le début de la saison, il est en train de voler la place du numéro 1 comme gardien de but cette année.
Ouais, puis moi, j'aurais aimé le voir plus souvent. Il a jamais donné la pole, sauf quand Jake Allen était blessé. Puis quand tu regardes ça, finalement, c'est du pari au même parce qu'il peut pas prendre son élan. Des fois, je souhaiterais que le Canadien s'améliore à la position de gardien numéro 1 la saison prochaine, parce que ça peut faire une différence. Puis des fois, ben, je reste ouvert au fait que si on joue mieux devant les gars, ben peut-être que Samuel Montembeau pourrait aussi s'améliorer.
Oui, exactement. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis on a eu des bons commentaires cette semaine. On a reçu José Théodore au podcast, puis il nous a vraiment expliqué ça en détail, comment il voit ça, puis il avait tellement raison. C'est ce que Boston a fait, là, d'être capable de repérer un bon gardien de but où ça fonctionne pas quelque part, comme Hallmark l'a fait. Buffalo l'ont laissé aller. Boston ont vu un potentiel. Ils ont donné une chance dans un nouvel environnement. C'est exactement ça que le Canadien doit faire. Tu sais, on s'entend, le Montembeau, c'est un très bon gardien, Allen aussi, mais ça prend un vrai numéro un solide. Puis la façon que ça fonctionne avec le développement de notre équipe en ce moment, tu sais, on a des Suzuki, Caulfield. Tu peux pas repêcher un gars qui va arriver dans 6 ans, là. Tu sais, ça prend un gars qui est quand même déjà rendu à un certain âge, mais pas vieux, là, mais un 22, 23, 24 ans, là. Puis il faut aller le chercher ailleurs, puis il faut voir un potentiel, puis l'amener ici, puis le développer. On n'a pas le choix de faire ça si on veut gagner, parce que il n'y en a pas de secret, Mario, ça prend un bon gardien de but, un vrai de vrai, pour être capable de remporter une coupe cette année ou d'avoir du succès dans la Ligue nationale d'hockey.
On est encore d'accord, Maxime, tabarouette.
Ça va bien, hein? Ça doit être le vendredi soir, ça doit être pour ça.
C'est l'effet du vendredi. On choisit nos batailles, c'est le cas de dire. Il y a un auditeur qui te demande pendant qu'il nous écoute en direct, est-ce que Martin Saint-Louis consulte les joueurs pour punir un absent? Mais tu sais, une décision comme ça, tu penses que consulter ses joueurs où il s'est dit non, ça passe pas d'être ça, il n'y a pas besoin d'un grand conseil?
Ben, je te dirais que la plupart du temps, les entraîneurs discutent avec le fameux leadership group qu'on appelle, là, fait que Suzuki, quelques vétérans, sûrement Anderson et tout ça. Je pense que dans ce cas-là, on en a juste assez, pis on a juste dit c'est comme ça que ça va fonctionner. Puis c'est le meilleur temps, comme j'ai mentionné tantôt, tu veux envoyer un message à l'équipe, puis c'est la bonne façon de le faire, puis c'est la bonne décision aussi.
Vraiment. Tu sais, depuis quelques semaines, on est très content du succès que connaît Raphaël Harvey-Pinard. T'as été élogieux à son endroit. Puis tu sais, des fois, quand on continue de parler, on pense à l'an prochain. Le monde dit, puis je dis le monde, on fait allusion au fait que ben, dans le fond, il pourrait jouer sur une 3 ou sur une 4 dans nos discussions à nous. Et dans le fond, je te demande, actuellement, quand tu regardes la hiérarchie du flanc gauche, même avec des droitiers qui jouent à gauche, y a-t-il en ce moment un meilleur ailier gauche que Raphaël Harvey-Pinard dans l'organisation du Canadien, en ce moment-là?
Pas vraiment. En ce moment, on a quoi? On a Anderson qui joue à gauche, Hoffman, Pezzetta, non.
Gourianov, Richard, Slavkovski qui est hors, qui évidemment...
Ouais, hors elle, là, ouais, c'est... Non, c'est moi j'aime l'efficacité dans une équipe de hockey, puis tu sais parfois là c'est facile de juste voir ce qui est spectaculaire, puis les gars qui ont un genre de aura en entour d'eux autres là. Harvey Pinard, c'est peut-être plus tranquille dans ce département là, mais il est efficace, il fait toujours le bon travail, puis honnêtement il rend les joueurs étoiles meilleurs en entour de lui, tu sais, avec les bonnes choses qu'il fait en échec avant, en jouant bien défensivement. Ça n'en prend des gars de même. Tu sais, combien de fois, Mario, on a vu des séquences lors des derniers matchs où Harvey Pinard bloque un lancer, puis ça permet à des gars comme Suzuki d'aller s'amuser de l'autre côté avec la rondelle. C'est important, ça. Puis pour moi, c'est un beau complément. Il coûtera pas cher. Faut le signer. Faut le signer avec un beau contrat. Puis moi, je peux pas dire encore que c'est un gars de troisième, quatrième trio. Moi, je l'aime sur le premier ou sur le deuxième trio. Tu sais, je veux pas le comparer à lui parce que c'est pas le même style, puis c'est un droitier, mais moi, un Hyman à Edmonton, un peu les mêmes choses qu'il fait. Est-ce qu'il va être capable de se rendre à avoir les statistiques d'Hyman? Peut-être pas, puis on le verra dans le futur, mais pour moi, il fait les mêmes styles d'affaires sur la patinoire. Il bloque des lancers, il va au filet, il fait des jeux efficaces, puis ça en prend des gars comme ça. Ça peut pas juste être des gars qui marquent des buts. Tu sais, Suzuki Caulfield, c'est beau, c'est un beau duo, mais là, on va amener quoi? Un autre joueur qui est capable de marquer des buts, puis qui c'est pas un gars là, qui est efficace tant que ça en échec avant, puis défensivement. Ça prend des Harvey Pinard, puis ça y prend ses deux premiers trios, puis je suis pas gêné de le mettre là dès le premier match l'an prochain s'il y a un bon camp d'entraînement.
Ben oui, parce que, en tout cas, sur papier, puis même avec ce qu'on voit sur la glace avec les gars en santé, en ce moment, pour moi, ben Harvey Pinard est le meilleur ailier gauche des Canadiens de Montréal. Il n'y a même pas de question.
Il n'y a pas de gêne à le dire, Mario. Tu regardes les statistiques, les matchs joués, il est là, côté statistique, en match joué, c'est 14 points, 9 buts en 25 matchs, là. Donc, c'est assez simple, oui. C'est le meilleur allié gauche. Je pense qu'il n'y a même pas de débat.
Il n'y en a même pas. Fait qu'arrêtons de parler de la 4, là. Trouvez-en des meilleurs si vous voulez le faire débouler. Tu sais, peut-être qu'on gagne.
Non, mais, Mario, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est exactement ça le problème à Montréal. C'est que là, on a un Québécois, il fait le travail, puis on dirait que c'est trop facile, puis trop beau pour être vrai. Fait qu'on va juste l'accepter comme joueur de quatrième trio, puis on va y faire un petit off. Comme de contrat, non, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est un bon Québécois, il fait les bonnes choses, il est efficace sur le premier trio, il est efficace en avantage numérique quand il est là, il fait les bonnes affaires. Fait qu'arrêtons d'essayer excusez-moi l'expression, mais de prendre un shortcut parce que c'est un Québécois, là. C'est un bon joueur, puis on en a besoin. C'est aussi simple que ça. Payons-le sa juste valeur, puis donnons-lui les années qu'il mérite.
100 000 à l'heure, Maxime. Tabarouette! Vendredi soir, l'énergie est bonne entre nous autres. Comme d'habitude, dans le fond, là, je te taquine. Mais t'as déjà gossé certainement des gardiens de but, aller les déranger. Bennington a l'air d'être un gars. Oui, il dit oui. On a vu Marc-André Fleury, Bennington, passer proche d'en venir au coup. Tout le monde souhaitait que ça arrive, mais y a-tu un gardien que toi, dont tu te rappelles, qui était particulier, qui avait une grande boîte ou qui était bon pour répliquer ou qui t'a donné des coups de bâton, qui était un des plus, mettons, c'est qui le Billy Smith de ta génération?
Ben moi, Lennard, je pense qu'il était à Ottawa à l'époque, il était assez intense, il était facile, c'est facile de le sortir de son match. On y parlait toujours, puis tu sais, je pense que quand tu montes ça,
c'est sûr et certain qu'après ça, les autres équipes vont essayer de te distraire. Là. Ça, tu sais, quand le gardien de but, ça prend une parole ou un peu de neige sur sa mitte, puis il perd le contrôle comme ça. Ça fait partie du plan de match, Mario. Là. J'en ai vu des feuilles, moi, où on parle des joueurs et tout ça, puis c'est marqué à côté du gardien « short temper » puis « don't be shy to talk to him ». C'est ça qui était marqué sur la feuille.
C'est les recommandations d'avant-match. Ah ouais, Dizzy. Ben, ah ouais, fait que toi, c'était-tu avec la parole ou tu passais à côté de lui, puis tu y touchais un peu, puis ça le dérangeait? C'était quoi tes techniques préférées, Max?
N'importe quoi, un petit coup, aller toucher à sa gourde, de lui parler pendant les arrêts de jeu. C'est, tous les trucs sont bons, Mario. Quand quelqu'un est facile à déconcentrer comme ça, tout est bon.
Et n'as-tu qu'il y avait de la répartie, genre, tu sais, dans ceux que tu essayais de déranger?
Non, honnêtement, j'ai développé une technique, Mario, que les années, je parlais, puis je m'en allais après. Je voulais pas attendre la réponse. Fait que je pense que c'est encore plus frustrant pour l'adversaire.
Et est-ce que t'as souvent eu des mauvais parties des adversaires ou du gardien, un gardien qui s'est payé à traite? Tu sais, quand les gars te sautent dessus, là, puis là, le gardien, il te faufile un coup de bloqueur à travers la mêlée. N'as-tu déjà mangé un bon?
J'ai déjà eu un très, très bon coup de bâton direct sur le museau. C'est quoi son nom? L'ancien gardien de but des Sénateurs d'Ottawa qui est malheureusement décédé.
Ray Emery.
Ray, exactement. Ray Emery, j'avais foncé au filet, puis quand je m'étais relevé... Il m'en avait donné un solide sur le nez, un coup de bâton. Il avait été suspendu, je pense, oui.
Ah oui?
Oui, il me semble à l'époque.
Fait qu'il avait payé le prix. Fait que Canadien contre le Lightning de Tampa Bay demain. Un des sujets, c'est un petit sujet, mais pour toi, qu'on songe à prolonger la prolongation de 2 minutes de 5 à 7 pour éviter qu'on aille encore moins souvent en tir de barrage. Ça donne un bon show, les tirs de barrage. Je sais pas, c'est quoi ton opinion là-dessus?
Ben, tu sais, Mario, j'ai beaucoup d'opinions. J'aime mieux le 3 contre 3, c'est sûr et certain. Puis des fois, je me demande, puis là, ça va être un peu farfelu comme idée, mais pourquoi qu'on continue pas à 2 contre 2 puis 1 contre 1? Imagine-toi une aréna de 21 000 personnes en prolongation dans la saison régulière, puis tu te ramasses à l'époque avec un Sidney Crosby contre Ovechkin.
Ben, j'haïs pas ça. C'est sûr que ça fait pas mal de glace, mais écoute.
Non, mais tu comprends?
Oui.
Ouais, mais ça arriverait rapidement le but, on s'entend?
Ben,
on le fait. Hey, puis ça, on le fait souvent lors des entraînements en passant, des 2 contre 2, pleine glace, puis des 1 contre 1 pour pratiquer nos angles et tout ça. Les gars sont capables, Mario sont en forme, pas à peu près.
Fait comment tu ferais ça, mettons, 5 minutes à 3 contre 3 ou?
5 minutes 3 contre 3. S'il n'y a pas de but, on y va pour un petit je sais pas le temps, là, mais entre 3 et 5 minutes 2 contre 2, puis après ça, ben 3 minutes ou 2 minutes 1 contre 1. De quoi du genre? Aye. Pour faire un total de 10 minutes, mettons.
10 minutes.
Avec les trois affaires.
Ben écoute, ça donne un bon show. Là. Les prolongations ouais. 3 contre 3, j'étais un bon client.
Ben Mario, tu sais, on plaisante en ce moment, mais imagine-toi McDavid contre McKinnon.
Ça pourrait être potentiellement, je sais pas si on pourrait être déçu, mais ça pourrait aussi donner des moments d'anthologie, là.
Ben, 100%. Ben, pour moi, c'est mieux qu'un joueur contre un gardien de but, puis le gars, il arrive, on les voit, là, les gars à Washington, il arrive, ça patine même pas. Le gardien, ça dure 10 secondes presque la séquence, là. Pour moi, ça fait aucun sens, ça.
Maxime, merci beaucoup pour cette excellente prestation du vendredi soir. Et je sais pas si tu rencontres ou tu croises des gens qui ont le moral dans les talons. L'hiver est pas fini. Il y a beaucoup de nouvelles négatives. Et j'ai envie d'aller à la pause en disant au monde, pis c'est la toune que j'avais choisie à l'été de la finale COVID. Ben pas COVID, mais oui, quelque part COVID. Là, quand le Canadien est allé en finale, c'est une vieille toune de Margeau. Puis je dis au monde qui ces temps-ci ont le moral dans les talons. C'est simple de même, mais lâchez pas, gang. C'est vrai que c'est pas tout le temps facile, hein?
Lâchez pas, puis c'est important de dire, vous êtes jamais seul. Pensez jamais que vous êtes seul.
Merci, mon Max.
Salut, Mario.
Bonne fin de semaine. Lâchez surtout pas la gang. Un bon week-end. On vous revient avec Daniel Sauvageau, Alex Tagliani et bien d'autres.
Tu m'avais dit, tu m'aimeras toujours. J'aurais dû savoir que tu mentais. J'attends pas de crever. Change pas, moi je sais où je m'en vais. Change pas, j'attends pas de crever. Change pas.
sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Yeah, here come the rooster.
Vendredi soir, j'espère que vous passez un bon début de week-end avec nous, au bout du fil, nul autre que Antoine Roussel. Salut Antoine, comment ça va?
Salut Mario, ben écoute, comme je te dis, ça va super bien, mais écoute, je viens de perdre au Monopoly contre mes enfants, donc bien déçu, et j'ai la mine basse.
Ton parc immobilier perd des plumes, garde la cabane à sucre par exemple Antoine, laisse-toi pas chiper ça là.
Ça faisait pas partie de... Je l'avais... C'est confidentiel, ils le savaient pas encore.
Bonne affaire. Fait que je sens que les Roussel entreprennent la fin de semaine dans un excellent état d'esprit, malgré quelques pertes au Monopoly. Antoine, veut pas, c'est pas qu'on l'a choisi, mais Jonathan Drouin se présente pas à une réunion ce matin, et le coach dit la culture, c'est pas négociable. Donc, on l'a suspendu techniquement de l'entraînement pour lequel il s'est pas présenté. Mais quand ça sort public puis qu'un coach ou une organisation décide de pas labrier l'affaire, c'est-tu parce qu'il y a eu des fois avant où tu penses que ça peut être juste cette fois-là, puis ils ont décidé de sévir?
Ben, je pense que tu gardes pas vraiment le... Tu sévis automatiquement la première fois que ça arrive, parce que comme ça, ça fait en sorte que s'il y en a d'autres qui le manquent, ben, tu sais ce que ça va te coûter si tu manques un meeting d'équipe, un rendez-vous, parce que l'équipe prime avant tout, et le coach, ben, à ce moment-là, il n'y a pas de traitement de faveur. Puis c'est là que je trouve qu'un coach... Peut s'établir comme, tu sais, il y a des choses que tu peux faire, des choses que tu peux pas faire. C'est comme des parents finalement. Tu mets tes balises, puis si tu les dépasses, ben voici les conséquences. Puis je trouve ça vraiment important qu'il ait fait ça, parce que au moins t'assures ton autorité vis-à-vis de tes joueurs de cette manière-là. Maintenant, manquer une pratique, pour moi, une pratique, ça veut rien dire. On s'entend, parce que. Il y a tellement de joueurs qui manquent des pratiques parce qu'ils sont blessés, parce qu'on leur donne une journée de congé, ça veut rien dire. Là. Moi, pour moi, ce qui est la monnaie d'un coach, c'est un, le temps de glace, deux, après ça, les matchs au complet dans un estrade. Fait que pour moi, c'est ça que tu monnaies vraiment, c'est ça que tu as à donner, c'est ça que tu joues en fait avec la bourse des joueurs. On parlait de Monopoly, ben c'est ça que la banque, c'est le coach, puis il contrôle vraiment tout ce qui se passe. Puis si le coach n'est pas en mesure de faire ça, de le faire savoir que quand, dans le fond, tout repasse, ben là, à ce moment-là, c'est lui qui perd son autorité, puis tu veux vraiment pas ça. Donc pour moi, une pratique, c'est pas assez. Quand tu manques des affaires comme ça, ça devrait être automatiquement, ou si ça sort comme ça l'est sorti dernièrement, ben ça devrait manquer un match. Mais nous, moi, ça m'est déjà arrivé. Écoute, j'ai déjà un coéquipier, quand je jouais à Vancouver, il avait manqué le début d'un meeting comme ça. Puis le coach, justement, n'avait pas utilisé son autorité pour assumer ça, puis pour mettre le pied à terre. Il avait fait semblant d'être fâché, puis après ça, c'était passé comme une lettre à la poste. Puis je me souviens l'effet que ça avait fait dans la chambre. On s'était tous regardés. Ah ouais, c'est ça que ça vaut, manquer un meeting. C'est au sein de l'équipe, ça a beaucoup plus de vagues par la suite que ce qu'on peut le penser, parce que tout le monde se dit « Ah ouais, lui, il est capable de s'en sortir comme ça s'il fait ça. » Ben écoute, puis là, après ça, ben le monde se positionne par rapport à ça. Puis moi, j'avais trouvé ça vraiment dommageable.
Ça établit la jurisprudence, si tu me permets un parallèle avec la loi, bon, tes standards. Et donc, toi, en principe, Martin Saint-Louis, ça doit coûter un match à Jonathan Drouin, même s'il joue à court d'un homme demain, à la limite.
Ben je sais pas, en fait, c'est ce qui s'est passé, mais je sais que moi je l'avais vécu comme ça à l'interne.
D'accord.
Tu sais, je peux pas dire que faudrait que, parce que je connais pas non plus le contexte. Tu sais, des fois il y a un contexte à tout aussi, puis tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, des fois il peut s'être passé quelque chose de niveau familial et que t'as dû gérer cette situation-là en panique, parce que j'en ai déjà vu des situations où un gars, c'est arrivé quelque chose, il a dû manquer un meeting parce qu'il fallait qu'il gère ça. Mais ça voulait pas dire qu'il y avait pas l'équipe à cœur puis qu'il prenait pas les choses au sérieux. Il y a une nuance quand même à faire entre je me lève trop tard parce que j'étais pas assidu et je réglais une affaire d'importance cruciale familiale ou n'importe qui passe au-dessus de l'équipe. Puis quand c'est familial, généralement ça passe au-dessus de l'équipe. Dans ce temps-là, il aurait pas manqué la pratique, personne ne l'aurait su, puis ça serait passé comme une lettre à la porte.
Quels sont les
pas ça qui est arrivé.
On le sait pas, puis je veux pas spéculer non plus, en effet. Sauf que peut-être que les situations familiales, ça se passe plus quand l'équipe est à la maison que sur la route, mais des fois, avec un FaceTime, tu peux être vite plongé dans l'ambiance familiale, même si t'es à 4 heures de vol. Fait que c'est pour ça que je veux pas spéculer. Mais ce que j'aimerais savoir de toi, Antoine, tu nous as déjà raconté quelques éléments de vécu dans les équipes. Qu'est-ce qui est non négociable? Parce que pour Martin, il a dit c'est pas négociable. Ça, tu sais, il y a pas de journée où que la culture de l'équipe c'est négociable. Fait, qu'est-ce qui vaut pour toi dans tes critères à toi, là, sans avoir eu le temps d'y réfléchir pendant 3 jours, mais qui peut causer une suspension d'un joueur, puis que t'es mieux de le suspendre parce que sinon tu vas perdre ton club si tu sévis pas?
Ben, je pense que sincèrement, si tu manques un entraînement, si tu arrives en retard pour l'avion, des fois, arriver en retard pour l'avion, c'est un peu délicat parce que tu peux avoir pris du trafic, il y a toujours des impondérables comme ça, mais arriver en retard où il y a des assignements d'équipe, pour moi, ça devrait pas être négociable parce que tu sais, c'est ta job de te lever plus tôt, c'est ta job d'arriver toujours en avance, c'est ta job de justement planifier qu'il n'y ait pas des impondérants pour arriver en retard. Tu sais, si on te demande d'être là 2 heures avant, ben faut que tu sois là 2 heures avant. Tu sais, c'est là que tu établis une culture d'équipe où tu sais, puis Ken Hitchcock le disait souvent, puis maudit que je le haïssais, mais souvent, plus tard dans ma carrière, je disais Colin qu'il n'y avait pas, tort, pareil, ce maudit-là, parce que il disait, moi, ma montre, elle est toujours 5 minutes en avance. Organisez-vous pour être à l'heure de ma montre. Donc, lui, là, quand il disait, le meeting, il est à 11 heures, ben, fallait pas que t'arrives à 10h55. Fallait que, tu sais, donne-toi 15 minutes, arrive d'avance, puis comme ça, donne-toi un petit lousse, comme ça, s'il y a quoi que ce chose qui arrive, t'es jamais en retard. Mais ça, c'est lui, il l'avait dit, c'est la première chose qu'il avait dit dans son meeting de début de saison. C'est, il avait commencé comme ça. Puis c'est la première chose qu'il nous avait dit, puis ça avait été de même toute la saison. Puis tu sais, dans ma tête, je m'étais dit, ouais, mais là, tu sais, si c'est 11h, c'est 11h, tu sais. Mais lui, c'est comme ça qu'il fonctionnait. C'était plus ou moins une de ses seules règles, et donc c'est ça, comme ça qui fonctionnait. Fait que pour moi, c'est vraiment d'être ponctuel, non? Quand on demande d'être à ce store-là, quand on demande de faire des affaires, fais-les, puis après ça, tout se passe bien. Fait que c'est plus à ce niveau-là que moi, en tant que coach, je sévirais. Maintenant, tu sais, comme tu disais, là, j'ai pas eu le temps de d'y repenser. Tu sais, si tu manques à m'avion, par exemple, je me souviens qu'à un moment donné, on était à San Jose, puis tu sais, je peux pas te dire le nom du joueur, mais c'était pendant le voyage des pères. Et, imagine. Pendant le voyage des pères, et ce joueur-là, son père, il s'était réveillé un peu plus tôt, il lui avait dit « Ah, je vais aller déjeuner », puis tout ça, puis lui, il avait dit « Ah, c'est pas de trouble, on se retrouve à l'avion », quelque chose de même. Ça a été flou, encore aujourd'hui, pour moi, c'est flou, cette histoire-là, mais ça s'est fini comme ça. Le joueur, là, toute l'équipe a pris l'autobus avec les pères pour se rendre jusqu'à l'avion. On est arrivé à l'avion, puis on s'est rendu compte que le joueur était pas là.
Ben voyons. Le père était là, mais le joueur était pas là.
Le père était pas là, le joueur était pas là. Son père avait dû essayer de l'appeler, mais il était monté dans l'avion. Là, en tout cas, je peux pas spéculer sur ce qui était passé entre le père et le fils, mais il reste que le père était dans l'avion, le fils était pas là. Puis à un moment donné, Lindy Ruff a dit bon, on ferme les portes, on est parti. Puis le gars, là, il a dû rentrer à Dallas par ses propres moyens, mais pour moi, ça, c'est une suspension. Puis, je me rappelle pas à 100% si ça avait été justement une suspension. Je pense que oui, Mais je suis pas sûr à 100%, mais à 95%.
Le gars après ça, là, comme exemple, bon, aujourd'hui c'est Joe Drouin. Fait que lui, là, quand il va retrouver à soir, peut-être il va se faire avec des gars, ou demain dans l'entourage de l'équipe, il va se faire taquiner, il va se faire agacer. Ça va-tu être de bon ton ou ça te dérange du monde, le gars qui rate l'avion? Tu sais, ça laisse-tu des traces? Ou c'est juste de la matière à rigoler avec le gars après, ou quand ça franchit ou que ça atteint la culture de l'équipe, on rit pas avec ça?
Ben, c'est sûr que tu vas te faire écœurer, ça, c'est automatique. Puis il va falloir que tu fasses une carapace par rapport à ça, puis que tu sois capable de continuer à avancer, puis de faire semblant que ça te fasse pas mal quand le monde t'écœure, parce que c'est ça la clé, quand les gens t'écœurent, c'est de faire semblant que ça te fait pas mal. Ça, je l'ai appris quand j'ai commencé à être professionnel, parce que quand j'étais plus jeune, je devenais fâché quand le monde m'écœurait. Puis quand j'étais rendu plus vieux, ben je me suis fait une carapace rapidement, parce que j'ai compris que le monde, ils font un malin plaisir à t'écœurer plus quand ça te dérange. Donc, pour ceux qui sont peut-être susceptibles à la maison, prenez ce conseil-là, parce que c'est la vérité. Puis dans ce moment-là, ben tu fais une petite carapace et tu essaies de continuer, mais tu vas te faire écœurer, puis à un moment donné, ça va passer. Mais faut quand même que tu sois entre le mur puis la peinture pendant un bon bout de temps, parce que sans ça, si ça fallait que ça revienne puis que ça soit continuel, là, tu sais, ça arrive une fois, tu vas te faire écœurer, c'est correct. Mais si ça arrive régulièrement, c'est là que tu as une discussion sérieuse avec un gars, parce que là, ça affecte la culture vraiment de l'équipe, comme tu le mentionnais. Si c'est une affaire qui est ponctuelle ou qui est sporadique plutôt, ben là, c'est moins grave. Il y a des conséquences, mais c'est moins grave que si c'était régulier.
Ça, c'est sorti public, Antoine. Juste pour conclure là-dessus, mais j'étais curieux de savoir. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie d'une équipe. Il y a tellement de monde, il y a des coachs, il y a des adjoints, etc. Fait qu'il y en a de la vie, il y a des histoires comme n'importe où dans la vie. Mais donc ça sort public aujourd'hui. Dirais-tu, c'est quoi le pourcentage des histoires qui sortent public? Tu dirais-tu que c'est un très petit pourcentage? Moi, j'ai l'impression oui. que j'ai, autrement dit que...
Ben oui, c'est sûr que, tu sais, surtout dans un marché comme Montréal, il y a la majorité, 95% des histoires, ça sort pas, hein, parce que tu sais l'impact que ça va peut avoir sur ce qui va se passer dans les radios, dans les journaux, dans ce qui va se passer dans les médias en général, l'ampleur que ça peut prendre. On sait que une petite chose peut facilement devenir un tsunami à Montréal. C'est sûr qu'il y a un contrôle de ce qui sort et ce qui sort pas, mais des fois il y a des choses comme ça que c'est pas grave si ça sort. Je trouve que en fait ça fait juste bien paraître l'équipe d'entraîneurs, parce que ça montre leur autorité et tout ça. Je pense que c'est plus dans cette optique que je le regarde comparativement à quelque chose d'autre. Mais en même temps, c'est pas la fin du monde. Là. Si t'as manqué un meeting, il n'y a pas mort d'homme non plus.
Mais ce que je voulais suggérer, sans mettre des mots dans la bouche, c'est qu'il y a bien des histoires comme peut-être un gars qui est en retard à un meeting, qui sortent pas. Fait que quand tu décides d'être public avec ça, c'est que c'est une décision d'organisation, Antoine. Tu sais, ou de coach.
C'est ça que je te disais. C'est là que je m'en allais, parce que pour eux, ils veulent le faire savoir que pour eux, c'est la marche à suivre, puis il y a personne qui est au-dessus des lois de Martin Saint-Louis, puis c'est parfait. Ça vaut pour tout le monde. Si Nick Suzuki manque un meeting, que ça soit à n'importe quel moment de l'année, c'est là que tu vas voir aussi si le coach, il y a une ligne directrice ou pas. Maintenant, j'espère que Nick Suzuki manquerait pas un meeting en séries éliminatoires, parce que là, c'est sûr que les fondamentaux du coach pourraient être ébranlés un petit peu, là.
Y a-tu pas mal de monde dans la ligue sans nommer de nom qui tourne les coins ronds puis que ça sort pas public, Antoine, en terminant?
Je pense que oui, ça tourne les coins ronds partout, là, mais la majorité des personnes, oui, il y en a toujours qui tournent les coins ronds, mais la majorité, grande majorité du monde qui écoute, qui sont sur la coche, qui arrivent à l'heure, qui sont toujours présents, puis que tu sais, qui font ce qu'il faut, qui doit faire, mais comme dans chaque organisation, t'as du monde qui doivent être pris par la main puis montrer comment ça fonctionne, puis ça tombe du ciel aussi. Donc oui, c'est pas toujours facile pour tout le monde pour rester vague.
Salut Antoine, merci beaucoup.
Bonne fin de semaine.
C'était excellent. Bye bye.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, 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 na.
C'est un bon moment pour relaxer, de changer les idées que de parler de sport, puis de le faire en compagnie de mon fidèle complice de nos vendredis soirs, Pierre Gervais, alias Jerv, pour les gens qui travaillent avec lui chez le Canadien pendant les 36 dernières années. Salut mon Pierre, comment
salut,
ça va?
Salut Mario, bonsoir tout le monde.
Oui, je suis content de te voir. J'étais dû pour un petit verre de vino, mon Pierre.
Here we go, c'est le bon temps.
Yes, sir. Puis Stéphane Wake, là, lui, il est trop occupé pour venir s'asseoir en studio avec nous autres, mais au moins, il daigne être avec nous par téléphone quand on lui en fait la demande, quand il peut. Salut,
c'est
mon Steph.
Fantastique.
Hey, salut mes chums, comment ça allez?
Salut, mon Steph.
Ça va bien, mais là, les gars, je vais vous mettre sur le spot, là. Hey, vous autres, vous en savez des histoires, hein?
Ah, oh, quelques-unes.
Ouais, vous en savez des histoires. Alors.
Amenez-moi écrire un livre, il m'a tout sorti.
Oh, hey, boy.
Jerv, vas-tu en écrire un deuxième de réflexion?
Peut-être. Peut-être. Je m'entends, Steph.
Les gars, réaction. Parce que, dans le fond, bon, tu sais, l'histoire qu'un gars arrive en retard à un meeting, c'est une chose, mais Pierre, c'est-tu de quoi qui arrive souvent dans une équipe sans que ça sorte nécessairement?
Non, ça arrive pas souvent. Honnêtement, c'est... Ça dépend du joueur, ça dépend c'est qui. Comme Maxime Lapierre l'a très bien dit tantôt, si le gars, Nick Suzuki ou un Sakurovi dans le temps, ou quelqu'un comme ça, tout peut arriver. Tu sais, des fois, tout peut arriver. Ça peut être ta famille, ça peut être un bruit mécanique de ta voiture, ça peut être du trafic. Mais dans le cas de Joe, moi, je me rappelle qu'il arrivait tout le temps bien, bien serré. Tout le temps, juste. Puis je me rappelle que Claude Julien, il checkait tout le temps ça. T'sais, il arrivait là, vraiment là, serré. Fait que tu sais, dans ce temps-là, tu cours un petit peu par le trouble. T'sais, c'est question de minutes, de secondes.
Une lumière rouge
exactement,
d'être dans le trouble.
Exactement ça. Fait que je suis pas vraiment surpris. Mais je sais pas, Steph, ce que t'en penses, mais je pense que tu vois la même chose que moi.
Mais t'arrêtes, je me souviens tellement de Joe. T'as tellement raison. Hein. Les gars s'en venaient dans la salle de vidéo et puis commençaient à rentrer. Puis tu voyais souvent Joe rentrer à l'aréna en même temps. Les gars, t'as déjà tout en combine, tout en underwear. Puis Joe arrivait, lui, puis il a dit en civil, puis il venait dans le meeting parce qu'il venait juste d'arriver. Puis c'était le même. On disait tout le temps, mais à un moment donné, il sera pas aussi chanceux que ça. Ou il fait quoi pour arriver on time, bien juste, et attendu dans le parking avant de rentrer?
Non, parce que c'est pas un village, hein. Tu sais, un petit village de 600 habitants, là. Tu peux calculer tes minutes, mais à Montréal, là, c'est pas vraiment le cas.
Exact,
là.
Exact. Mais, j'ai vu autant à Montréal qu'à Chicago, des gars qui sont arrivés en retard à des meetings ou des gars qui n'ont manqué parce que spécialement une coupe sur la route. Une couple de fois sur la route parce que le gars n'a pas capable, on sait pas il est où. On a un meeting le matin à l'hôtel. Tu sais, des fois, le gars, le cadran est pas sonné, passé tout droit, et puis, c'est des choses qui arrivent. Et puis, c'est des choses que, si ça arrive une fois, là, le coach va te protéger. Et tu vas peut-être avoir une amende. Et puis, on va garder ça, passer ça sur la couverte, puis pas que ça sorte dans les journaux. On va garder ça à l'interne. Et puis, sauf qu'à un moment donné, pour que tu le sortes, là, comme Martin l'a fait aujourd'hui, là, fallait qu'il n'aille assez, là. Il est dû arriver d'autres choses. Tu sors pas ça, puis tu fais pas une grosse affaire publique de même si c'est la première fois que ça arrive. Tu sais, ça peut arriver à n'importe qui. Mais pour que ça sorte aujourd'hui de même, il devait en avoir assez. Et puis, mais il faut qu'il y ait une conséquence.
T'as raison, Steph. Puis, c'est sûr, comme le nombre de meetings qu'il y a d'une année, d'une saison, le nombre de pratiques qu'il y a, de games, de placements, c'est sûr que ça arrive. Je sais, peu importe quelle compagnie, peu importe qui, c'est sûr que ça va arriver. Mais comme tu dis, à un moment donné, un joueur le fait régulièrement ou, comme on disait tantôt avec Joe, qui est un méchant bon gars, by the way, là, c'est un bon kid, ouais. Il est bien fin, mais tu sais, c'était tout le temps, il jouait avec le feu à tous les jours, tant qu'à moi, puis là, ben maintenant, tu te fais brûler une couple de fois, puis c'est trop.
Est-ce qu'il se démarquait des autres avec ce comportement d'arriver, tu sais, comme je dirais qu'à la dernière minute, est-ce que c'est une pratique courante?
Non? Tout le temps 2-3, hein, Jerv? Qui arrive tout le temps bien, bien, bien serré. Puis comme tu dis, Jerv, tu joues avec le feu. Ben moi, je suis arrivé souvent, j'ai vu, je me souviens, une couple de fois à Chicago, où un joueur a manqué un meeting. Et puis, ben écoute, là, tu passes ça là, comme de quoi que ou manquer une pratique, ça, surtout les pratiques, parce que là, les journalistes le voient, ça, que le joueur n'est pas sur la glace. Quand il n'est pas sur la glace, on pose des questions. Mais souvent, j'ai vu que ça s'est fait couvrir, dire, bon, mais aujourd'hui, tel joueur, il y a un virus. Donc, il n'a pas pratiqué parce que c'est un virus.
Mais ça, ça se voit moins. Mais ça se voit moins à Chicago, puis à Nashville, puis c'est encore qu'à Montréal. Tu sais, à Montréal, ils sont 25 qui scrutent, qui regardent, qui voient s'il manque un joueur, tandis qu'ailleurs, ben c'est différent.
Bon, puis même à Montréal, une couple de fois, c'est arrivé. Écoute, le gars, il est arrivé quelque chose de personnel dans sa vie où il a manqué une pratique, où il manquait quoi, puis on l'a passé comme de quoi, bon, ben c'est de la régie interne, puis ça s'arrête là, puis on n'en parle plus, puis l'histoire est finie. Mais là, que tu le dises, comme aujourd'hui, comme Martin, ça, c'est rare. Puis en passant, bravo, hein, bravo à Martin Saint-Louis d'être transparent. Ça fait des années qu'on veut que ce soit transparent, puis il l'a été.
C'est pas mal intéressant. Il y en a qui, qui se demandent si, dans le fond, c'est un signe de ce qu'ils vivaient à Tampa Bay. Beaucoup de textos qui me posent la question. Quelqu'un me dit, moi, je l'aurais pas fait l'échange parce que, mais j'étais pas DG. Pierre, salutations, merci d'être à l'écoute. Mais est-ce que, dans le fond, puis quand on faisait allusion, c'est ça, c'était-tu un indice de ce qui était avant d'arriver à Montréal puis qui aura toujours été, finalement?
C'est clair. T'as commencé clair, puis ça, c'est un échange... Marc a fait des super bons coups. Puis ça, je pense que, regarde, Sergachev, là, c'est un défenseur. C'est un pur sang. C'est un gros, grand défenseur fort. Puis j'enlève rien à Jonathan, absolument rien. Le gars a du talent incroyable. C'est un Québécois. Sauf que, quand tu vois ce qui arrive, là, ben, je pense que c'était clair, net et précis.
Ouais, mais écoute. Mais il y a une affaire, par exemple. La journée que ça s'est fait, cet échange-là, je me souviens que tout le Québec était content. Tous les médias étaient contents, puis même nous, les coachs, on était tous contents.
Mais la seule affaire, Steph, que je dis toujours à ça, t'as raison, mais c'était pas notre job de scouter puis de faire l'enquête, savoir si tout était correct avant de donner un gars qui allait devenir un cheval à la ligne bleue. Tu sais, puis il y avait peut-être moyen de l'avoir sans donner un cheval à la ligne bleue si l'autre club voulait s'en débarrasser. Mais oui, j'étais content, t'as raison, mais j'ai toujours dit ça, parce que j'ai grimacé quand j'ai vu que ça avait coûté sur Gatchef, mais... Ouais. Tu sais, c'est comme Pierre-Luc Dubois. Vous connaissez mon opinion, mais je veux dire, c'est à eux autres de faire la job aussi, là, la job de coulisses sur les...
Exact. Exactement. Exactement, mais il reste que c'est ça. Là-dessus, tu as raison, Mario, mais écoute, mais je me souviens que sur le coup, le Québec est au complet t'as content. Puis même nous, on t'a content, puis j'imagine qu'on a fait quelques recherches. Tout ça pour dire que des fois, mais t'as des trades... Que sur le coup, t'es content, puis quelques années plus tard, tu dis « Oh my God, celle-là, elle l'a manqué. »
Moi, tu vois, j'avais vu cet échange-là plus comme un anam impératif après avoir pris la décision de larguer Radulov, puis un gros un attaquant qui produisait. C'est de la gestion de relations publiques et de vente de billets puis d'espoir aussi. Puis ça passait mal de laisser partir Radulov. Puis là, ben quel meilleur remède qu'un Québécois qui avait été repêché troisième au total. Fait que je sais pas qu'est-ce qui a pas été fait comme due diligence, comme on appelle.
Pas fou.
Dans ça, mais moi, j'ai trouvé que c'était ça le move, puis wow. Ouais. C'est ça qui est ça. Bref. Les gars, parlons d'autres choses maintenant. Gardien de but, on a l'extrait sonore de Marc-André Fleury qui est sur le bord d'en venir au coup avec Jordan Binnington. Il y avait un microphone ce soir-là. Je sais pas si c'est pour ça qu'il en a mis plus épais à la galette. Tu savais que c'était pour faire du bon contenu vidéo. Et aussi.
Hey! Let's go!
On entend, c'est pas clair, mais Marc-André avait envie de vivre ça, on dirait. C'est ça qu'il disait aux arbitres, laissez-moi aller, ça a fait comme... Le monde s'est bien énervé avec cette séquence-là.
Il y a une belle dentition, je trouve, pour vouloir aller se battre.
C'est vrai qu'il y a des belles dents pour un gars qui souhaitait peut-être risquer de manger une claque. Les gars, avez-vous des souvenirs de bagarres? Mais de retrait aussi, alors que hier, Martin a joué au capitaine Crochet avec ses gardiens de but. Puis on sait que dans l'histoire, dans le folklore du hockey montréalais, il y a des retraits de gardiens qui sont passés à l'histoire, qui ont eu de lourdes conséquences, Stéphane.
Oui. Mais écoute, au niveau des bagarres, moi, là, aussitôt que je m'imagine une bagarre de gardien de but, il y en a deux qui me reviennent tout de suite à l'idée. c'est la fameuse bataille Félix Potvin contre Ron Extall. Puis Félix Potvin qui avait surpris tout le monde dans le hockey en gagnant cette bataille-là contre un des plus toughs gardiens de but de l'histoire dans le temps, Ron Extall. Ça avait été impressionnant. Puis l'autre qui avait été toute une bagarre, c'était dans les séries quand Patrick Roy jouait au Colorado contre Osgood, Chris Osgood. Quelle bataille de gardien de but. Ça, c'est les deux batailles qui me reviennent tout de suite à l'idée quand je pense à ça.
Jeff, t'en as-tu vu une papier, toi?
Ben, c'est pas mal, ça, de Patrick Roy. Félix Potvin, je l'avais complètement oublié, puis Steph Antier.
C'était avec
raison.
Mike Vernon, mais il s'est battu avec les deux, je pense. Des trois, il en a tellement eu de brasse camarade.
Mais la bonne, c'était comme, c'était contre Mike Vernon, t'as raison, puis il en avait eu une contre Osgood, mais moi, spectaculaire.
Et la vraie bonne, là, c'est sûr que Patrick avait été coupé, puis il avait saigné, puis tout ça, c'était contre. Mais tu sais, les gardiens de but, c'est rare que ça arrive, là. Honnêtement, là, ouais. Je connais des gardiens, j'ai connu des gardiens très bouillants. Jeff Hackett, puis... Tu connais Jeff Hackett, Steph? Non, hein?
Non, je l'ai pas connu, moi.
Non, c'est ça, c'était un gardien de but.
Je suis pas comme toi, Jeff, j'ai pas tout connu tous les gardiens de but de l'histoire du Canadien.
Hey, Montana! Mais Jeff Hackett, c'était un gars très, très bouillant. Je l'ai pas
il
vu
était
se battre,
intense,
par contre,
lui, dans son incroyable. Regard, dans
écoute,
tout, là.
Écoute, intense, il y avait le regard de Maurice Richard, il y avait le feu dans les yeux d'un John Ferguson, il y avait... c'était tout un numéro, mais c'était une méchante bonne personne aussi. Mais,
mais ça me fait penser, moi, en parlant parce qu'on tout ça part de Marc-André Fleury. Marc-André Fleury, là, j'ai adoré son geste quand il est allé. Puis là, partez pas en peur, dis pas que j'étais un apôtre de la violence puis de le kit, là, mais j'ai aimé ça. Parce que ça fait longtemps que Jordan Binnington frappe un peu tout le monde avec son blocker, puis il réplique, puis là, il y avait le mêlé, il se retrouvait là à 6 contre 5. Et puis l'autre chose où ce que Marc-André Fleury là, a été bon, c'est que ça, c'est des gestes. Là. Ils s'en vont dans les séries, eux autres. Puis ça, c'est un geste d'un un futur Hall of Famer, un vétéran qui a gagné Coupe Stanley, qui s'en va là défendre ses coéquipiers. Ça, là, c'est énorme dans le vestiaire. Ça, là, les gars vont respecter ça. Puis ça, c'est rassembleur. Puis surtout à la veille des playoffs, Marc-André Fleury vient de lâcher un message à toute la chambre. Il dit, hey, les boys, si on veut faire un bout, il faut qu'on se tienne. Ça a commencé par lui. Ça, j'ai aimé ça.
Steph, t'as tellement raison. Ça, c'est une affaire d'équipe. Puis c'est pas une question de violence, c'est pas une question de prôner la violence, pas du tout. Là. Moi, je suis totalement conscient également. Mais un gars comme ça qui pose un geste comme ça, c'est tellement rassembleur. Ses coéquipiers, ça cimente. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Vraiment.
Pierre,
puis venant d'un Fleury, là, je le répète, un futur Hall of Fame, un gars qui a gagné la Coupe Stanley.
Monsieur Cool, c'est Joe Cool, le Marc-André Fleury. Là, c'est le gars. Il a l'air du gars le plus sympathique de la Ligue. Fait que, il a donné tout un show, en tout cas, le soir qu'il y avait le microphone. On a même constaté qu'il saluait ses poteaux dans les deux langues. Il parle, comme Patrick Roy, il parle à ses poteaux, mais il lui parle en anglais, pas en français.
Pour être sûr qu'il soit bien entendu.
Oui, exactement. Je complète avec, justement, les gardiens de but, Stéphane, et les retraits célèbres de gardiens avec Martin qui a joué au crochet hier. Vous souvenez-vous de l'ambiance qui régnait le soir du regard de Carey envers Michel Therrien? Quel genre d'ambiance qui régnait dans le bus ou dans la chambre après ce match-là? Ça laisse-tu des traces?
C'était au centre Bell et puis il laissait des traces. Carey n'était pas content, ça c'est clair. Peut-être ça en a laissé un petit peu, mais je sais que le lendemain, on jouait à Washington et puis le lendemain matin, on a rencontré Carey avec Michel et puis j'étais présent. Et puis, Carey, c'était le premier à s'excuser. Il a dit, gars, je suis pas content, je suis toujours pas content, mais ma réaction n'était pas la bonne, puis il s'est excusé, Michel. Donc, tu sais, à un moment donné, sur le coup de l'émotion, là, il se passe bien des affaires sur le coup de l'émotion. Mais ce côté-là, on l'avait aidé le lendemain, puis Carey avait été très, très honnête en disant, gars, je suis pas content encore que tu m'aies sorti, mais ma réaction n'était pas la bonne, puis je m'excuse.
Est-ce qu'il t'apprend des choses, Jeff, quand il te raconte ça, Steph?
Non, pas du tout, puis je vais en rajouter un petit peu, là, une petite couche. Là. C'est sûr que Carey avait un caractère bouillant, c'était un gars qui était fier. Ça ne faisait pas du tout son affaire ce soir-là. Puis c'est sûr, c'est un... Écoute, un anglicisme, c'est un build-up. C'est sûr que...
Ouais.
Carey, peut-être qui est des vétérans avec Michel Therrien, avait des petits problèmes, puis c'était un genre de build-up, puis build-up, comment tu sens ça?
Un crescendo, je dirais. Crescendo, quelque chose qui...
Exactement. Puis là, ben quand ça arrive, ben ça réagit plus fort que que ce serait normal d'arriver là.
Autrement dit, lui, c'est un leader de l'équipe. Il sent que l'équipe est moins chaude à l'idée de recevoir les directives du coach. Puis là, lui, dans un soir où le club se fait humilier, puis lui qui passe à la moulinette, et là, il y a un prétexte pour le faire savoir. Parce que le regard a eu une durée de vie pas mal plus, en tout cas publique, que les excuses dont personne n'est au courant. Hein?
Ouais, bon, exact, mais ça, c'était public. Le regard était public, puis les excuses étaient entre quatre murs. Donc, c'est des choses qu'on sait pas des fois, puis que des fois, quand on les émotions tombent, mais on regrette certaines choses. Mais écoute, pour tout ça pour dire, c'est tout le temps touché, retirer un gardien de but d'un match. Faut que tu le fasses pour les bonnes raisons. Puis surtout, faut que tu y expliques les raisons, pourquoi ça s'est fait. Ça, c'est important. Fait que ça a tout le temps été quelque chose que moi, là, qui me tient à cœur, quand l'entraîneur-chef veut sortir un gardien de but d'un match, je veux qu'il me consulte avant. Puis je dis pas que c'est moi qui décide. Après ça, il faut qu'est-ce qu'il voudra. Mais je veux donner mon feedback avant qu'il le fasse.
T'as tellement raison. Puis d'ailleurs, dans mon livre, j'en parle, là, Caden Primo à Phoenix, qui s'est fait retiré après la première ou deuxième période, je ne me rappelle pas. Là,
il y avait défait.
Non, mais tu sais, c'est un des astreints instructeurs qui va lui dire. Puis l'instructeur des gardiens à ce moment-là, qui n'était pas Stéphane, là, qui était sur la galerie de la presse, puis tu sais, il va le dire à un qui rentre dans le game, puis il dit pas à l'autre qui ne rentre pas dans le game. Fait que le kid se prépare, puis que je voyais les deux gardiens se préparer. Moi, je capotais, là, honnêtement, là, puis ça, je parle bien dans mon livre. C'est comme, ça ne sera pas avec toi, Stéphane. Sincèrement, tu sais, t'es un gars professionnel, puis t'es un gars qui aurait pris le temps d'aller expliquer la décision, puis prendre le gars à part, puis sans faire un long discours, tu sais, ça sera pas de mille deux, puis that's it, that's all. Mais ça, j'ai trouvé ça, oh boy, c'était tellement ordinaire.
Puis juste pour clore l'épisode, donc après le meeting, les excuses. Il reste que là, après ça, l'image, tu t'as vu en boucle tout le temps, le regard de Carey, le regard de Carey. Puis tu sais, on en a parlé, là. On en parle encore, imagine. Fait que veux, veux pas, une fois que ça c'est fait, malgré le meeting puis une poignée de main sans doute sincère, ça peut pas faire autrement que de laisser des traces.
C'est comme l'endemain de Patrick Roy. Quand c'est arrivé le samedi soir, le lendemain, le dimanche matin, Patrick, t'es prêt à s'excuser, t'es prêt à travailler avec Mario Tremblay, t'es prêt à le faire, bien, tu sais, la décision t'as prise au deuxième étage. Le mal t'a fait, puis t'as fini, là. Fait que ça, c'est un petit peu pareil.
Le mal t'a fait, Steph.
Tout le monde a beau dire ce qu'ils veulent, mais le mal est fait, puis ça suit son cours.
C'est bien pour dire.
C'était très important. Puis ça pour dire qu'hier, en passant, les deux fois des gardiens de but. Puis les deux fois, j'étais d'accord avec la décision de Martin Saint-Louis hier. Puis ils vont m'expliquer pourquoi. Il y en a beaucoup qui me disent, « Ouais, mais il l'a sorti vite, Samuel, où il aurait pu demander seulement un time-out. » Mais moi, mon point, c'est pas ça. C'est que je sentais que Samuel était ébranlé. Et puis, tu l'as sorti de là, en quelque part, tu le protèges. Parce qu'il était vraiment ébranlé. Je l'ai senti après le deuxième but, c'était plus le même. Donc, après le troisième but que j'ai pas aimé, un mauvais but, il avait l'air d'un gars là, qui avait peur de se faire compter un autre but. Puis ça, dans ce temps-là, tu sens que ton gardien de but est dans le trouble. Là, tu sors. Ça, c'est une raison pour le sortir. Puis il a bien fait ça. Il a parlé d'une question de feeling. Puis c'était exactement le feeling que j'avais, moi, de chez nous, de dire, oh, il était branlé, le kid, et puis il est dans le trouble.
Entièrement d'accord.
Donc, c'est pour ça que j'étais d'accord. C'est pour ça que je veux que le coach me consulte. Parce que ça aurait pu être trois buts après six lancés, mais tu vois que le goaler, là, le gardien de but, il n'est pas ébranlé, il n'avait rien à faire, il est square, il est patient, il fait tout ce qu'il a à faire, puis son body language est bon. Il a l'air d'un gars, là, ramenez-moi un autre shot. Là, il a dit quoi, j'en veux. Mais il n'avait pas l'air de ça. Fait que c'est deux situations différentes. S'il aurait été le même, Samuel, solide, pas ébranlé, j'aurais recommandé à mon coach, moi, de dire, ben, prenons un time-out à la place, parce que je pense qu'on l'a pas perdu, il est encore solide, puis laisse-les là pour tout de suite.
Puis d'ailleurs, Jerv, tu voulais renchérir, mais oui. J'étais pour dire, Steph, puis pour devenir bon. Un numéro un, ah, il est bon, c'est ça qu'on disait, c'est
tellement bon, c'est vraiment, ton analyse, là, c'est pas parce qu'on est chum, mais ton analyse est vraiment...
sur le piton.
Sur le piton, puis t'es vraiment dans le mille, puis c'est ça qui est ça.
Puis lui, ben, tu sais, la confiance d'un gardien, c'est toute une position, ça peut être ébranlé, mais si il veut grimper d'une autre marche ou deux, puis devenir peut-être un numéro un, ben, il faut qu'il soit capable de traverser ça. Il faut qu'il soit capable d'avoir l'air d'un gars qui a pas peur de la prochaine shot, le prochain soir, que ça va aller mal, mais ça arrive au meilleur, fait que...
Exactement, ça arrive au meilleur. Et puis après ça, le fait de sortir Jake Allen après 6 buts sur 18 lancés, où ce que Jake Allen a mal paru sur 3 buts sur des 6, ça ici, c'était la bonne décision, parce que tu veux pas que ton vétéran, ton numéro 1, soit humilié dans le net. Fait que ça et tout, c'était la bonne décision de le sortir. Puis ça a bien tourné, parce que ça a permis à Samuel d'avoir une bonne fin de match, regagner sa confiance, puis rentrer dans le match de demain beaucoup plus confiant. Donc, toutes les décisions, pour moi, ont été la bonne hier.
Quelle belle analyse, Steph. Merci bien gros d'avoir parti notre heure de « Ça sent la coupe ». Là, on va goûter au vin que Jerv nous amène, puis on va te dire ce qu'on en pense. On va t'en reparler. Salut, Steph.
Salut.
Salut les boys, bonne soirée.
Merci.
Bye.
Stéphane White.
Les amateurs de sport.
C'est 23.